per accedere anche la vita di Gerusalemme in Caterina, però un giudano se viene giudicato e giudicato si disaccorda, non si tratta di non giudicare che si dirà alla fine Gesù. E quindi stiamo lì, Giuda, Anomra, Favete, Zara, Favete, Pere, Zara, Zama, Favete, Anomra, Esposi, Esposi, Anomra, Esposi, Anomra, Esposi, Chamon, Anom, Boros, Chamon, Anom, Boros, Boros, Anom, Ove, quoi, le migliore, Ove, Jolie, Jolie, Anom, Ishai, Ishai, Anom, Guadalí, David, Anomra, Salomon, Salomon, Esposi, Guadalí, c'est exact avec un tout, avec un très petit. Ça, c'est l'histoire de l'Israël, de l'Israël, etc. On arrive au troisième groupe de 14 générations, et là va apparaître quelque chose que je voudrais mettre en évidence, qui nomme tout de suite la misère, le cadre de notre problème. Dans la troisième groupe de générations, un certain Éléazar finit par engendrer un certain Matan. Matan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'épouse de Marie, de laquelle il n'y a qu'une seule vie dans son unité. Alors, vous voyez ce qui se passe dans ce troisième groupe de 14 générations. On reprend la typologie de la famille des patriarches. Voilà, à un certain moment, on doit apparaître Jacob, mais qui n'est plus le père de Judas et ses frères, qui est le père d'un certain Joseph, qui devient l'épouse de Marie, de laquelle on dit qu'elle est la mère de celui dont on dit qu'il est. Alors, c'est bien évident. Il est bien évident, non, ça veut dire que non, c'est ça. Et il est bien évident qu'il y a là une intention dans la rédaction de ce genre. D'autant plus que le Messie dont on parlera, dont on dit l'histoire de la passion de la nécessité, va se trouver d'abord défini comme un certain fils de Joseph qui serait lui-même celui qu'on attend en tant que fils de David. Vous voyez quelle est la stratégie de la théologie messianique qui apparaît de ce chapitre. Mais c'est un Messie à la manière de Joseph, puisque bien évidemment et intentionnellement on va lui donner un père terrestre qui s'appellera Joseph, fils de Jacob, et qui va se heurter à un prêtre qui s'appelle Judas, qui lui reprend la perspective proprement Yehuda, c'est-à-dire la messianité hébraïque. Parce que ici, il s'agit bien évidemment d'un Joseph qui va se faire comme notre Joseph du temps de l'Égypte, c'est-à-dire rester, et vous vous rappelez avec quel scrupule de texte nous montre à chaque détail, quelle que soit sa stratégie et quelle que soit la clandestinité dans laquelle il se trouve, du point de vue de son identité, il reste hébreux jusqu'au bout. Il est au service de l'humanité, mais comme on peut. Il a été mis en santé par ses frères dans l'accusation. Et en accusation de la faire en raison de la fin de sa vie, il se justifie en se dévoilant, je suis Joseph, votre frère. Pas du tout de même sens que le 23, d'après une question que j'ai entendue. Il y a soit la journée, je suis Joseph, votre frère, le 23, tout à l'heure. Alors là, il est évoqué. Mais en tout cas, il s'agit là d'un Joseph qui est allé au-delà. C'est-à-dire d'un Joseph qui est devenu égyptien, en tout cas romain. Est-ce que c'est bien? Alors, voyez-vous pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que nous avons bien dans l'histoire comme modèle illustrant cette perspective de la tentative Joseph lorsqu'elle tombe dans son propre piège, précisément la chrétienté, en tout cas la théologie messianique de la chrétienté. Vous voyez ce qui se passe dans le récit de Matthieu. On va tout mettre en place. Précisément comme prêtre à la messianité, un certain Judas. Alors on reprend tous les thèmes que nous avions dans la Torah, mais on les reformule à la manière du programme chrétien. C'est-à-dire la première fois, c'est l'histoire d'un peuple qui est Israël, la deuxième. fondation d'une religion qui sera le christianisme et qui se basera sur le mythe raconté dans les évangiles. Et en tout cas, les rédacteurs, dans ce passage de Matthieu en particulier, ont fait des prix sur le Seigneur. On dit qu'il y a une tombe d'abord, comme il y avait tout l'enfant de Jacob. Et puis, l'antagoniste du fils de Joseph, c'est tout simplement un certain Judas. Il y a d'autres qui les avaient, c'est presque jamais versé, mais je suis déjà de l'influence en l'univers. Une tentative de messianité à l'extérieur, le service de l'universel, qui ne prendrait pas garde, notre christianisme était très lucide, et qui ne prendrait pas garde à ce piège, tomber dans ce piège, et serait que, qu'il s'agit de croyants ou pas, qu'il s'agit d'hommes de conception théologique ou pas, serait le type chrétien, christianisant, en tout cas. Voilà, j'ai pratiquement achevé d'énumérer les principes de ces analyses. Et voilà. Que cette rencontre déclenche une foule. Rappelez-vous qui était la femme de Potiphar ? C'est l'identité de la civilisation égyptienne, la matrice de la civilisation égyptienne, mais en personne pour la féconder, et arrive l'hébreu, dont elle devine, dont elle prétend, il lui laisse savoir qui est le fécondateur. Pour ceux qui connaissent la correspondance des termes et des méthodes, c'est quand même la mise à l'Éosef, c'est Yesod. Et Yesod, c'est la fécondité. Et je vais donner enfin trop d'analogies, mais il est clair qu'il y a une confusion. C'est-à-dire que, par sa présence même, Joseph ne peut pas ne pas séduire la femme de Potiphar et être séduit par elle. Quel était le danger? Le danger, c'est que si elle avait à consommer cette rencontre, si j'ose dire, jusqu'au bout, alors, les enfants de Joseph seraient les enfants de la femme de Potiphar, mais aussi de l'identité égyptienne. Tandis que lorsque Ruth rencontre Boaz, qui est au titre de l'identité hébraïque, que Ruth rencontre Boaz, voilà la différence.
Elle a aurait pu être effectivement à l'hémorragie de son cousin, puisqu'elle a été comme lui, vendue comme esclave comme prostituée. Donc elle a fait exactement le même chemin.
Je comprends ce qu'il veut
la rencontre et de la réconciliation entre Judas et Joseph, les épreuves des deux, dans la paracha de Vaïgash. C'est donc le chapitre 44, verset 16, verset 18. Dans les 15 vers, Vaïgash sera de Judas à Joseph. Et Judas s'approche de lui, de Joseph, avant que Joseph ne se fasse reconnaître de ses frères. Vaïomer dit, dis à Tony, attaque-toi à moi, ne t'occupe pas de Benjamin. Mais à Bernard, avec Abadar de Rien à Tony, que mon serviteur, c'est Judas-Juda, dise quelque chose aux oreilles de mon maître, va lui rabattre avec Abéchin, que ta colère ne s'enflamme pas contre ton serviteur, qui ramontra Képalon. Car comme toi, comme ça va. Littéralement, et c'est le sens qui est le plus habituellement, lui, c'est et ne me prends en colère, parce que je réponds à ta colère, tu es aussi puissant que ta rente. Le Midrash intervient dessus. Qui parlera plus de dessus, mais c'est mon insisté par la Chine. Car comme toi, comme Pharaon, en particulier ce qui est très important, et je m'adresse à toi comme si tu étais Pharaon, parce que tu es dans l'identité du Pharaon. Alors, démarque-toi, qui es-tu? Es-tu le Pharaon ou es-tu Joseph, notre frère Jean-Baptiste? Et dans la bouche de Jean-Baptiste. Vous voyez quel est le problème. En particulier, c'est une vraie chanson que je retiens dans nos analyses. Tu agis comme le pharaon. De même, c'est le message que le pharaon, du temps d'Abraham, avait voulu prendre sa part, c'est-à-dire s'approprier de l'identité hébraïque à titre de l'Égypte. De même, tu veux prendre Benjamin, qui n'est pas n'importe qui dans les généalogies, et qui est la dernière chance de l'identité d'Israël, qui s'appelle Benjamin, là où Benjamin, c'est la vie du pape. Et pas simplement dans la sens français du Benjamin, de qui est Binyamin. Et si Binyamin est avec Joseph, c'est par Joseph que ça passe. Si Binyamin est avec Yehuda, c'est par Yehuda que ça passe. Et l'histoire a montré d'ailleurs qu'après le chiffre, au temps du roi Salomon, Binyamin a rejoint Yehuda. Quoi qu'il en soit, la question est très claire. Hein, c'est que l'identité chrétienne a réalisé dans l'histoire, selon les lois à plus de ses vies. C'est-à-dire évacuer, répudier l'identité juive, héritière du projet de l'identité hébraïque, à fonction dans le langage chrétien, c'est-à-dire plusieurs passions d'identité, purement et simplement, à toutes les nouvelles Israël, mais au titre de l'Égypte, au titre de Rome, enfin, c'était l'Égypte de ce temps. Et si effectivement le pape de Rome, c'est la triple carte, je parlais de Jean-23, nous dit je suis votre frère, alors c'est très important. Ça veut dire qu'il y a une série d'aveux que nous attendons encore, comme nous attendons toujours, parce que Jean-23 dit ça. Malheureusement, mais c'est comme ça, il y a une très bonne furtive. Peut-être que quelqu'un, au titre de la chrétienté, allait dire la vérité, et puis tout se va faire. Pardon ? Dans mon sens, je ne crois pas. C'est dans un cheminement tellement défiguré. Je ne vais pas employer le terme qui ne va pas garder d'ailleurs trop brutaux, mais c'est tellement. Parce que non seulement c'est vrai, mais c'est réel. Oui. pas faire un rapprochement avec le fait que, dans l'histoire de notre vie, ça a été contraint du diaspora de jouer un rôle, en quelque sorte, de capitalisateur au niveau économique, avec l'œuvre de Joseph. Et d'autre part, que...
Je pense que capitalisateur, c'est une des phases. Mais il est bien évident que l'histoire nous montre toute cette pente que vous décrivez là, du génie juif au service de la planification économique de l'histoire des civilisations.
Et je veux juste vous envoyer mon capitalisateur, parce que si vous voulez, le grand problème, c'est la constitution du peuple, et la notion du peuple, la notion de réserve.
Oui, c'est une idée à vous, c'est un des moments. Écoutez, je vais dire ceci. C'est que Joseph, un peu dans un style un peu document personnel, disons, parce qu'il y a différents harmonistes aussi, ce que Joseph a fait de la société égyptienne, il l'a transformé en totalitarisme monarchique. Je vais vous répondre. Imaginons, si vous voulez, cette histoire de façon microscopique. Les Juifs d'Europe de l'Est arrivant en Occident. La première génération, c'est qu'elle est juive. Et elle rencontre le pays continental qui le tient encore. C'est déjà la deuxième, la troisième, la quatrième, tout ça se fait. Et avec une accélération inquiétante, c'est une histoire que nous vivons. Et ça, je vais vous répondre. C'est-à-dire, n'ayons pas la conscience tranquille parce que nous avons eu un Joseph Arsadique. Mais à l'échelle des milliers de petits Joseph que nous sommes, lorsque nous sommes dans cette situation, de pénible et catastrophique. Et c'est cet avertissement que ces récits veulent nous donner. Je dis souvent, pourquoi, d'autres vont aussi, mais pourquoi la tradition s'est appelée, s'est habituée à dire Joseph a traduit, il y en avait un qui était traduit, c'était celui-là. De tous les autres, eh bien, par exemple, les créateurs de christianisme. Je suis persuadé que leur. Je pourrais en parler très longuement, peut-être une fois un séminaire là-dessus, à l'occasion, mais je suis persuadé que cette exigence d'être au service de l'universel et d'éloigner les frontières d'Israël jusqu'aux étoiles, etc., était sincère, était de bonne foi. Mais qu'est-ce qui se passe avec quelle lucidité les évangélistes nous disent qu'ils voulaient faire, d'accord ? On veut décrocher de l'Israël et Yehuda. Et on s'avancera pour que le nom de Judas signifie traître. C'est ce qu'il dit dans le vocabulaire chrétien. Alors on y ajoute un N, etc. Et je suis persuadé qu'à l'origine, c'était de bonne foi et c'était sincère exactement comme chacun de nos juifs de diaspora, lorsqu'il est au service de l'universel, et à sa manière, dans son idéologie, pas forcément théologique comme le christianisme, à la manière de l'idée. Mais qu'est-ce qu'il y a au bout ? La dénaturation de l'identité juive. Et ce qu'il y a au bout, c'est la mise en parenthèse de la loi de Moïse. Et pas seulement à son niveau actuel, ce qui est un premier problème, mais surtout chez les principes de l'unité entre la religion et la morale. Et lorsque, dès qu'on arrive, et très rapidement dans le récit évangélique, à demander à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César, c'est déjà le plus à Dieu. C'est lui qui a mené la situation contemporaine là où il a mené. Je voulais simplement mettre un exemple parce que le pédile qu'il y a dans cette dimension. Bien entendu, le fait apostolique enlève le masque égyptien du « je ne suis pas le pharaon, je ne suis pas le pape, je suis Joseph, votre frère ».
D'autant plus que l'exil égyptien est nécessaire, c'est depuis Adam, de la création même à partir de la terre d'Égypte des organismes.
Oui, mais vous comprenez bien que la notion d'exil a de sens, et je m'encourage à en donner un positif, en particulier ce soir, et que j'ai fait ça pendant 30 ans, que comme premier moment, il y a un programme dont le deuxième est plus important, c'est la Géoula. Le monde n'a pas été créé pour que l'homme soit en église. Si cette église provisoire est nécessaire, il n'a de sens que parce qu'il mène à une Géoula. Et c'est Joseph qui déclenche la Géoula. de la journée, une petite parenthèse. C'est ça, Marc Carpegiani, c'est qu'à la fin, il est le poète, et c'est bien qui est arrivé dans l'histoire contemporaine, lorsque les hommes de la communauté juive, de la civilisation présente, se sont aperçus qu'ils étaient libres dans les bras de la femme du peuple, et bien, ils ont décroché, ils ont abandonné l'appartement, ils se sont sauvés. Ce sont les juifs les plus assimilés qui ont fondé le mouvement sioniste politique. Dans les deux parties de l'air, la pente de l'assimilation et dans la décrochement. Ma chère Bénédicte, c'est ce que la Bible révèle souvent au nom du homme de Juna, Sion et le Matria, Yosef. Sion et Yosef. Et Sion est prêt à la vallée du chemin, qui est une date. Mais donc Sion n'est pas le chemin. Vous avez remarqué un peu le changement de texte de la Hatsuga, avant et après. Le Yom Ha'atzmaut, on a ajouté Yerushalayim, vous avez remarqué. Qui avait demandé à parole? Ah, il y avait une demande. Si vous permettez de réutiliser cela, qu'est-ce que les chrétiens ont oublié? C'est-à-dire la formule à l'origine de Yerushalayim vient des Juifs, et puis la cathédrale chrétienne, je ne cite pas une en particulier, qui a substitué le salut vient des Juifs, et ça n'a rien à voir. Si je comprends bien, madame, vous seriez plutôt protestante que catholique. Bon, mais un peu hérétique. Pour revenir à ce problème, et non, en tant que juif, en tant que catholique, je demande une deuxième situation, c'est, dans un de ses premiers discours, le personnage principal du récit dit « Je ne suis venu que pour les brebis égarées de la maison d'Israël ». Et puis c'est ensuite effectivement qu'il y a l'élargissement à l'universel lorsque les villes de Paul a pris le pas sur les villes de Pierre et surtout de Jacques. Mais quoi qu'il en soit, nous faisons le bilan de Milan. Eh bien, il y a eu une dimension de l'Est qui a quitté le peuple juif, mais qui est venu de Rome, mais qui est venu de Rome. C'est pas seulement chez les juifs devenus chrétiens qu'est ce danger. C'est en général chez les juifs qui, à quelque type d'idéologie que ce soit, prennent cette pente, mais sans se rendre compte elles-mêmes, et sans se rendre compte qu'ils sont fondamentalement christianisés. Je ne parle pas de tous les chrétiens comme tels. Ceux qui venus des nations se rapprochent d'Israël. Ça, c'est un cheminement qui a été bloqué par le monde, mais c'est un cheminement collectif. C'est ce qu'a dit la prophétie de Daïm. Il arrivera que des filles et des fils se lèveront des nations et se dirigeront vers la maison du Dieu d'Israël. Ils ont été arrêtés par lui. Mais leur voyage est positif. Il consiste à rejoindre l'identité hébraïque. Je parle de la dimension judaïque lorsqu'elle est dans le sens et qui se rend compte qu'elle n'aura plus pas la force de la Géoula et qui se perd dans la dimension israélienne. Oui.
Je crois qu'il est difficile de parler des deux thèmes de Joseph et de Yehuda, c'est-à-dire les deux tentatives messianiques, sans mettre l'accent au moins sur l'un des autres fils de Jacob, à savoir Benjamin. Parce que, effectivement, comme tu l'as mis en évidence, finalement, la tentative de Joseph précède celle de Yehuda, Yehuda lui-même se rallie à la nécessité d'un exil avec le sens de l'exil A dans la perspective de Yosef. Parce que les midrashim montrent, et tu l'as rappelé tout à l'heure d'ailleurs, que le retour même, c'est-à-dire la messianité de Yehuda, n'est possible que grâce au mérite de Yosef, nous avons vu avant-hier les midrashim explicites. Qui avait cité au début du Midrash que la mer rouge de l'habitation semble avoir été.
Bien. Alors écoutez, nous avons déjà parlé d'une partie de la question hier, il me semble, au début du cours. C'est que l'étape de la vie, qui est en lui-même, ma chère Rémi-Marcel, d'ailleurs, d'une façon un peu cachée, l'étape de la vie est déjà réalisée. Et donc, nous attendons l'étape. À travers les Judas, l'étape suivante après David. Pourquoi Ben David veut dire ce que Ben David doit faire après David. très rapidement, et nous l'avons pu analyser plus longuement hier, Caïn a assuré la rédemption de la faute du premier homme, Adam, et Ben David doit assurer la rédemption de la faute du deuxième homme, Caïn. C'est pourquoi le premier Ben David s'appelle Shlomo. Et il y a une parenthèse beaucoup plus longue, au moins sinon d'hier, mais nous l'avons vu suffisamment. Et je reviens un peu sur la première question, sur la fonction de Mashiach Ben Yosef. En revenant précisément à la disparition des individus, deux remarques. Premièrement, précisons cette conscience messianique nationale du rassemblement du peuple juif en tant que nation hébraïque et au nom de Mashiach Ben Yosef devient dominant dans la conscience des Judéens quand le royaume d'Israël, le royaume du Nord, issu du schisme après le temps du roi Salomon, a disparu. Il a disparu complètement, c'est comme la deuxième remarque. En effet, dans la première étape, le temps de David, le temps de Salomon, tout Israël est un. C'est Ben Israël unique. Après le roi Salomon, Roboam et Jéroboam, sépare le peuple en deux états, l'état d'Israël du Nord et l'état de Juda du Sud. Jusqu'à cette époque, la dimension principale consciente de la messianité d'Israël, elle est la messianité du Mashiach ben David. Elle est la messianité de la transfiguration ultime de l'histoire universelle. Le message prophétique de la fin des temps, c'est la paix sur terre. C'est la messianité de ben David. Lorsque le royaume du Nord a disparu, cette conscience messianique des Judéens s'est chargée, elle a mis en évidence une dimension beaucoup plus antérieure de la messianité ben Yosef, la messianité préalable strictement juive du rassemblement des unités et de la reconstitution de la nation hébraïque à partir du peuple juif dispersé, précisément parce que cette sûreté n'a pas disparu. Et c'est pourquoi, à chaque fois que dans les liturgies, vous pouvez, par exemple, surtout dans les versets que nous lisons dans la sortie de la Torah, ou bien, il y a ce shalom, al-kol Israël, c'est y compris. C'est descendant de Jésus-Christ dont nous allons parler du fond. Allez-vous, c'est lui qui écrit. C'est un col d'Israël, donc le col d'Israël. Et c'est donc que la conscience judaïque s'est chargée de la messianité du Mashiach ben Yosef qui a pour objet de ramener les exilés, de ramener les choses. C'est la première remarque. Et c'est un peu cela que n'a pas compris la messianité chrétienne. Qu'il y a deux stades de la messianité. D'abord Ben Yosef et ensuite le Ben David. D'abord la reconstitution de la nation hébraïque et après la messianité de la transfiguration spirituelle. Bien entendu, c'est fort que l'ensemble vient de dominer. Mais c'est très indiqué par la stratégie des généalogies dans les évangiles. C'est ça, de ces difficultés de la contradiction entre Ben Yosef et Ben David. Donc, on nous dit qu'il faut renoncer au Messie selon Judas. Voilà. C'est le Messie selon Judas qui est le Messie selon Judas. Et je me demande le problème. En fait, les livres des chroniques, et surtout les livres des Réunis, et surtout les livres des chroniques, nous indiquent que le bon conjoint judéen, des familles de toutes les tribus d'Israël, la force, la dimension de force, la dimension d'identité des 12 tribus, se trouve avec les juifs qui se connaissent comme tels. Parce que des familles de toutes les tribus, issues de l'exil de l'ancien royaume d'Israël, ont rejoint les Judéens, d'abord dans l'exil du premier royaume de Juda à elle-même, sont intégrés aux communautés juives, aux communautés judéennes, et d'autre part, on se retournait en Judée, au temps du Beit Sheni, avec les tribus. Ce qui fait qu'il y a une présence dans le peuple juif, et aussi que toutes les dimensions des tribus, mais toutes formes, si j'ose dire, elles dessinent. Alors que la forme dominante, c'est une identité, Joseph et Benjamin, comme tu l'as très bien expliqué. Simplement, je n'ai pas eu le temps de retrouver le verset de la naissance de Benjamin. Chacun d'entre vous se rappelle que nous avons écrit dans le livre.
35, verset 7.
Alors voilà donc le verset. La famille de Jacob revenue chez Laban, après la rencontre avec Esaü, va y trouver Bethel, ils ont décampé de Bethel, va y continuer à faire avec sa voie Ephrata. Il y avait encore un grand chemin à faire pour arriver à Ephrata. Va-t-elle être Rachel, va-t-elle cacher le Vita. Et Rachel, en fait, elle a eu beaucoup de difficultés dans son enfantement et la sagesse de Benjamin. Va-y, va-t-elle le Vita, et il arriva, lorsqu'elle eut difficulté à enfanter, va demander à Amérédé, la sage-femme lui dit, Alti, ne crains pas, qui gagne les Ben, car celui-là aussi est pour toi un fils.
Il arriva à Ben Marshall, qui met alors que son sous-jacquille partait de mort, va tirer chez moi Benoni. Elle nomme son nom Benoni. Et à Vic Caralo Benyami, son père nomma Benyami. Je vous cite de mémoire les trois explications de l'Israchi. Rachel a nommé cet enfant, la Benjamin l'appelle Benoni, le fils de ma douleur, le fils de ma souffrance, Ben Sahari, dit le Midrash. Et nous savons que ce mot de Oni, on a trouvé avec Cohen Oni tout à l'heure dans le auditeur. Et ça veut dire, d'une part, la souffrance, la plus grande souffrance, d'autre part, ça signifie la force, et précisément la force de l'enlendement. C'est la bénédiction donnée à l'Eden, Kochi, Bereshit, Oni. Et puis, deuxième explication du Rashi, quand il était Benyamin, ça veut dire le fils de la gloire. Ça, c'est le nom que lui donne son père, Jacob. Le fils de la droite. Pourquoi? Parce que le sud est à droite. Ici, et que Israël est le sud du Liban, enfin du pays de la Bible. Et donc, celui de l'université, il va mettre à la frontière, mais pénétrant dans le sud. Ça veut dire, en direct Israël, dans ce Midrash. Et puis, Rachid a fait une troisième explication. Et il dit, et puis c'est parce que c'est l'enfant de la vieillesse. C'est l'enfant que Jacob a enfanté, a engendré, c'est Rachid qui enfant, qu'il a engendré à la fin de ce livre. C'est comme s'il y avait Ben Yamin avec un même à la fin. L'expression, je ne pense pas nécessaire. Ben Yamin. Et il dit Yamin, se dit aussi Yamin, comme dans Daniel, qu'est-ce Yamin à la fin des temps. Alors là, il est échappé, prophétique, mais c'est quoi? C'est donc un type d'identité bien précise, qui est, comme je disais hier, la dernière chance d'Israël. C'est cette tribu, cette dimension d'identité, qui est de la plus grande souffrance, qui est la plus grande force, et qui arrive à la fin des temps. C'est la génération d'Israël, qui est la fin de la souffrance de l'exil et de la plus grande souffrance, et qui est la force d'Israël, et qui arrive à la fin des temps. Puisque cette génération est née, c'est que nous sommes en ce temps-là. Les hommes sont sortis de la plus grande souffrance de Rachel est morte, Rachel étant la matrice de l'exil, et la Shoah, ils ont fondé la force d'Israël, et nous sommes donc en ce temps-là, que c'est et notre génération. En Israël. Oui. Très bien, très bien. Et vous vous souvenez qu'Abraham avait déjà visité l'Égypte. D'accord. C'est pourquoi mes parents lui demandent à Jacob, parce qu'il est juste de votre chambre, est-ce que tu es le prince du Seigneur qui nous a visité au temps de. Non, c'est pas le même. Ça, c'était Abraham, et lui, c'est Jacob. Mais on va parler précisément de la rencontre entre Abraham et Melchisedec. Il y a des échanges de bénédictions. Et c'est le fait que nous avons cité un peu sur Timon tout à l'heure, tout cet intermède de l'impact de l'identité de Joseph lorsqu'il réussit dans la civilisation égyptienne, fait que cette dynastie-là est devenue monothéiste. Et que Jacob est venu collaborer à l'œuvre de Joseph, espérant que Joseph avait réussi. De la même manière qu'il souhaitait collaborer à l'œuvre de Yehuda avec Shrem, espérant que ce soit possible. La stratégie du mariage de Yehuda et Shrem est la même que la stratégie de Yehuda et Bathsheba. Il y a là bien évidemment un moment privilégié où il y a reconnaissance mutuelle et pouvait se réaliser ce rêve qui reste des rêves, qui n'est pas dire à la prière de Benjamin Moussek, du nom Harry, des Benjamin Noir, avec le relais, mais qui s'est décabraham, et ce savant là, mais ça reste à l'état de rêve. Et je pense, peut-être nous consacrerons une fois une étude spéciale à cela, je pense que précisément l'aventure chrétienne empêche le rêve de Marie de se réaliser. Avant le christianisme, c'était peut-être aussi, après le christianisme, à vous.
Pourquoi la première de l'Église d'Abraham cherche à assurer le leadership d'une collaboration ou d'un dialogue judéo-arabe en plein Marie?
Comment? Écoutez, je veux dire, j'ai été un des fondateurs de la fraternité d'Abraham. Comme vous le savez, sans doute. Et je peux vous dire un petit secret, maintenant que les choses sont bien avancées. C'était fait pour ça. C'était fait pour nous permettre d'avoir un forum où nous pouvions parler de musulmans à juifs. Et les chrétiens de la fraternité d'Abraham, je ne parle pas de ceux de l'amitié judéo-chrétienne et d'une autre perspective, ont accepté de faire le. Exactement. Je vous dis d'ailleurs qu'on a réussi à rencontrer des musulmans, mais pas des arabes. Peut-être qu'à partir de maintenant, quoique les Égyptiens pour rencontrer, quoique les Égyptiens et les Arabes, ce n'est pas forcément exactement la même chose, mais malgré tout, il y a quelque chose qui commence à se développer.
dans cette perspective, justement, vous nous avez expliqué que le tentative messianique de Yehuda consistait à aller récupérer les touches qui avaient fait échec, qui n'avaient pas réussi. Est-ce que il est insensé de penser qu'il n'y aurait pas une ouverture à faire du côté d'Ismaël?
Écoutez, il n'est pas nécessaire qu'Ismaël devienne Israël pour être tzadik. Ismaël a sa propre identité de fils d'Abraham, il a ses propres bénédictions. Alors que dans un des midrashim de Torah Shlema, où le rabbi la question avec qui l'enfant de la côte se sont mariés, dans la ville de Yehuda, a été cananéen. Un des midrashim cités par là, c'est un midrash yéménite, c'est-à-dire la communauté des Juifs du Yémen.